franceinter.fr. La revue de presse de Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre et bonjour à tous. Photo du pape François à la une de Ouest-France ce dimanche. Grande photo prise hier au moment de la célébration d'une messe dans le stade de Sarajevo. Sarajevo, une ville meurtrie par des années de conflits ethniques et religieux, lieu symbolique pour un discours dans lequel l'évêque de Rome a lancé comme souvent un appel à la paix. La paix dans un monde, a-t-il dit, plongé dans une sorte de troisième guerre mondiale, livré par morceaux. Le pape s'inquiète d'un climat de guerre, titre ainsi le quotidien en précisant qu'il a prêché la réconciliation et la coexistence entre communautés. Cependant, excepté Ouest-France, ce n'est pas à ce discours-là que s'intéresse l'essentiel de la presse ce matin, non. C'est le discours de Manuel Valls au congrès du Parti Socialiste à Poitiers. Et l'on constate à ce sujet une foultitude de métaphores qui corroborent le climat dénoncé par le pape. Des métaphores guerrières un peu partout dans les journaux. Ainsi, pour la Dépêche du Midi, Manuel Valls a sonné la charge contre Nicolas Sarkozy. Pour l'Ardennais, il a tiré à boulet rouge. Et pour le JDD, il a tiré au canon. Plus sobre, dans l'Est éclair, le Premier ministre a joué l'offensive. Et pour Sud-Ouest, il a surtout voulu ressouder ses troupes. La charge, le canon et les troupes. Un climat de guerre, disions-nous. Dans les faits, Manuel Valls a d'abord dit sa volonté de continuer les réformes engagées, lesquelles finiront selon lui par payer. Il a aussi fait applaudir debout le président de la République. Mais il s'en est aussi pris très vertement à l'ex-chef de l'État, déclarant qu'il était un problème pour le pays et que son nouveau parti souffrait d'un manque abyssal d'idées. Taper sur l'adversaire, c'est ça qui permet de ressouder les troupes. Et de l'avis de Cécile Amard dans le journal du dimanche, la journée du Premier ministre était une journée réussie. Des images d'unité, fini les divisions, une ambiance apaisé. Même Martine Aubry avait le sourire hier et elle annonce dans l'hebdomadaire qu'elle va participer de nouveau au bureau national du parti. Un bureau où elle n'avait pas mis les pieds depuis maintenant 3 ans. Mais ce matin, patatras, le revoici, le revoilà. Au dernier jour de ce congrès socialiste, l'ancien ministre Arnaud Montebourg publie, toujours dans le JDD, une tribune qu'il co-signe avec le banquier et patron de presse Mathieu Pigas, tribune dans lesquelles tous les deux étrillent le pouvoir en place. Est-il encore possible de sauver le quinquennat, demande-t-il. Est-il possible d'éviter le désastre politique et moral pour cette gauche de gouvernement qui semble avoir abandonné la France? Oui, répondent les deux hommes, mais à la condition d'un changement de cap radical. Désastre, les deux hommes répètent le mot plusieurs fois. Hébétés, écrivent-ils, nous marchons droit vers le désastre et il faut que nos dirigeants ouvrent leurs yeux sur le précipice qu'ils ont ouvert sur nos pieds, sous nos pieds et sous le leur même. Manuel Valls et François Hollande ne sont jamais nommés dans cette tribune, mais c'est bien sûr à eux que s'adressent Montebourg et Pigas, qui plaident pour la mise en place d'une coalition européenne anti-austérité, une coalition avant tout favorable à une baisse des impôts en faveur des ménages. Il faut se battre pour la croissance, explique-t-il, mais en arrêtant les politiques absurdes de Bruxelles. À leurs yeux, c'est l'austérité qui répand la colère, le dépit, la violence chez les citoyens, lesquels s'estiment bernés, trahis, abandonnés. Pour eux, l'austérité n'est rien moins qu'une fabrique à suffrage du Front National. Si avec Mathieu Pigas, que j'ai rencontré il y a très peu de temps, nous avons écrit cette tribune, explique Arnaud Montebourg, c'est pour éveiller les consciences de gauche. Et il est fort probable que demain, dans la presse, on lira que l'ancien ministre du redressement productif a ce matin sonné la charge contre l'exécutif, qu'il a tiré à boulet rouge ou tiré au canon.
Oui, le pape François a donc parlé hier d'une sorte de troisième guerre mondiale, mais sur le terrain russe, Vladimir Poutine se fait rassurant.
Des mots, ce ne sont que des mots, mais tout de même, dans une interview au quotidien italien Corriere della Sera, interview dont se fait l'écho le site Atlantico, le président russe a exclu un conflit d'ampleur entre son pays et l'OTAN. Seulement une personne malade et encore pendant son sommeil pourrait imaginer que la Russie attaque soudain l'OTAN. Et la crise en Ukraine, pour Poutine, c'est l'Occident qui en serait en partie responsable. Une crise dont il sera évidemment question lors du sommet du G7. Mais au fond, que peut-on vraiment attendre de ce sommet? Uniquement de jolies photos, répond sans illusion un proche d'Angela Merkel dans Le Monde. D'après un autre spécialiste interrogé par le journal, le G7 n'est plus désormais un mécanisme qui permet de résoudre des problèmes. Son poids a beaucoup diminué, tout simplement parce que le poids des pays qu'il compose a lui également diminué. Mais bon, il reste les photos, de jolies photos. Et puis à lire toujours dans Le Monde, cette fois c'est la fin d'un conflit. Vieux de près de 70 ans, un long conflit et une anomalie territoriale entre l'Inde et le Bangladesh que nous explique Julien Bouisson. Depuis donc près de 70 ans, plus de 60 000 personnes vivaient comme des apatrides, dans des enclaves émiettées comme des confettis, enclaves indiennes au Bangladesh et bangladaises en Inde. La faute aux hauts fonctionnaires britanniques qui, en 1947, fut chargé du tracé de la nouvelle frontière. Il n'avait jamais mis les pieds sur le sous-continent et suite à son tracé, quelque peu hasardeux, certains se réveillèrent avec le salon de leur maison en Inde et leur cuisine au Pakistan oriental devenu par la suite Bangladesh. Mais ce week-end, les deux pays devaient donc signer un accord, plus d'enclaves, une nouvelle frontière et une vie un peu plus normale pour les habitants de la région. Le premier ministre indien a comparé sa décision à la chute du mur de Berlin.
Quoi d'autre à retenir dans la presse ce matin, Frédéric ?
Un excellent dossier dans le Parisien dimanche sur la route des migrants depuis le début de l'année. Plus de 2000 candidats à l'immigration ont péri noyés en Méditerranée. Les reporters du journal se sont mis dans les pas de ceux qui ont survécu. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve résume la politique de la France en deux mots dans le journal « Humanité ». Et fermeté, mais à la lecture de l'enquête, on se rend compte que les migrants n'ont droit ni à l'une ni à l'autre. Une petite annonce publiée sur le site du service civil de l'Arabie Saoudite. 8 postes à pourvoir pour faire face à la hausse des exécutions, des postes de bourreaux. Pas de compétences ni de formations particulières ne sont requises, précise l'annonce en question. Laquelle stipule qu'en plus des décapitations, les nouveaux embauchés devront aussi procéder aux amputations prononcées par les tribunaux du royaume. C'est à lire dans le mensuel Cosette. Les villes de Paris et Marseille sont-elles faites pour s'entendre? Si l'on pense football, la réponse est non. Mais si l'on pense Jeux Olympiques, il y a peut-être un coup à jouer. C'est en tout cas ce qu'annonce ce matin la Provence, qui nous explique que Marseille va postuler pour accueillir les épreuves de voile et de foot des JO de 2024 en complément de la candidature de la capitale. La finale homme de Roland Garros cet après-midi, Wawrinka Djokovic pour l'équipe. Il s'agit du D-Day pour Djoko. D-Day, nouvelle métaphore. Enfin, sachez qu'à l'hôpital, Patricia, il est bon d'écouter du jazz. C'est en tout cas le conseil d'une équipe d'anesthésistes américains. Après une étude très sérieuse menée sur des patientes qui venaient de passer sur le billard. À certaines, ils ont donc fait mettre un casque à leur réveil, casque dans lequel les patientes étaient bercées par du jazz. Résultat, une diminution de la fréquence cardiaque, moins de stress, moins d'anxiété. C'est à lire dans l'excellent trimestriel Le Cercle Psy. Après une opération, écoutez Louis Armstrong. Mais je pense que ça fonctionne également avec Chet Baker. La musique apaise les malades, comme on dit qu'elle apaise les mœurs. Malheureusement, je ne suis pas sûr qu'elle puisse apaiser la planète.
Joli cadeau, merci Frédéric Pommier.
Bonne journée.
Bonne journée à vous.